Elle a bientôt fini.
Et tu me l'envoies après.
Je commence à me déshabiller.
Où sont passées les maisons closes ?
Marthe Richard. Pour les Français, Marthe Richard est d'abord celle qui a initié la loi qui, en 1946, portera son nom, loi ordonnant la fermeture des maisons closes.
Où est-il, le bon vieux temps de ces dames au salon ? Ces dames que Marthe Richard a contraintes à des exercices de plein air.
Régulièrement moquée, décriée, notamment par les nostalgiques du bon vieux temps des bordels, celle que l'on surnommait parfois la veuve qui clôt, n'avait pourtant rien d'une féministe abolitionniste ni d'une dame patronesse. Marthe Richard avait même derrière elle une longue vie d'aventures, certaines heureuses, d'autres beaucoup moins. Certaines reconnues, Marthe Richard, pionnière de l'aviation dans les années 1910, certaines longtemps mises en doute par ses détracteurs, Marthe Richard, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, une autre, restée longtemps secrète et taboue, son passé de prostituée. Mais il y a une page que les Français connaissent bien d'elle, ou du moins le croient-ils, c'est Marthe Richard, espionne pendant la Première Guerre mondiale.
Mais je vous reconnais, madame est la fameuse espionne Marthe Richard.
Ils le savent grâce au film sorti en 1937, Marthe Richard espionne au service de la France. La pétillante Edwige Feuillère, star des années 30, y incarne la jeune patriote qui, pour venger ses parents fusillés par des Allemands, propose ses services au contre-espionnage de son pays. Elle accepte de se rendre en Espagne et de séduire l'attaché naval allemand en poste à Madrid. C'est là, dans un luxueux palace, que la jeune espionne, en se bouchant le nez, devient la maîtresse de ce Prussien vieux et laid. De la même façon que le poilu donne son corps dans les tranchées, l'espionne française accepte ce sacrifice pour la patrie.
Je veux faire quelque chose d'utile, mon commandant, je veux servir. Je veux avoir affaire à eux directement comme les soldats.
Elle réussit sa mission. Obtenir des renseignements sur la guerre sous-marine qui alors fait rage entre les Allemands et les Alliés. Un film très édulcoré, inspiré des mémoires très fantaisistes que Marthe Richard a publié 2 ans plus tôt, ainsi que de celles, non moins fantaisistes, du capitaine Ladoux, le chef pendant la Première Guerre mondiale du 2e bureau, le contre-espionnage français. Georges Ladoux, un personnage clé, nous le verrons, dans l'espionnage de Marthe Richard, puisque c'est lui qui, en 1916, dans la vraie vie, l'a recruté comme agent. Mais dans son livre, écrit alors qu'il est à la retraite, Ladoux dresse un portrait très romanesque de l'Alouette, le nom de code de Marthe Richard.
Elle est vertueuse, instinctive, méprisant l'argent, dotée d'un phénoménal sang-froid.
Pour Ladoux, elle mérite même la Légion d'honneur.
Personne encore en France n'a pensé à accrocher un bout de ruban sur la frêle poitrine de l'Alouette, l'oiseau téméraire qui rit et chante dans la tempête, et dont nos pères gaulois avaient fait l'emblème de la patrie. Marthe avait bien mérité son surnom. C'est elle qui a 100 fois risqué sa vie pour la France.
À l'entendre, c'est Marthe Richard, à elle seule, qui a permis la victoire en 1918.
À la victoire ! À la victoire !
Alors que, vous le savez, le silence est la règle absolue pour les activités de renseignement, ce portrait au grand jour, héroïque et très médiatisé, surprend. Mais dans les années 1930, il va contribuer grandement à la notoriété, voire à la légende, de l'ex-espionne, femme audacieuse et opportuniste, qui saura en tirer profit par la suite. Mais au-delà de la légende, qui était la véritable espionne Marthe Richard ? Sa vraie histoire est sans nul doute plus intéressante que sa légende. L'historien Christophe Bettenfeld, arrière-petit-neveu de Marthe Richard, qui a consacré sa thèse de doctorat à son illustre aïeul, a apporté de nombreux éléments nouveaux sur son activité d'espionnage. Première chose, Marthe ne s'appelle pas vraiment Richard. Ce nom qu'elle gardera jusqu'à la mort est une des inventions du capitaine Ladoux pour son livre, inspiré de son vrai nom de femme mariée, Richer, qui à ses oreilles sonnait mal. Marthe Bettenfeld, c'est son vrai nom, est née en 1889 en Lorraine. Depuis la défaite française de 1870, une grande partie de l'Alsace-Lorraine est passée sous domination allemande. Mais Blamont, le village de Marthe, est du côté français, à 3 km de la frontière. Rien d'étonnant à ce que la petite fille soit élevée dans la haine de l'Allemagne.
En Lorraine, on nous apprenait à aimer la patrie avant de dire maman.
Un patriotisme ferré au corps qui ne la quittera pas.
Va à la ferme, me chercher un bol de crème.
Marthe grandit dans une famille pauvre et peu aimante. À 13 ans, elle quitte l'école pour devenir couturière. Mais à travailler des journées entières sur sa machine à coudre, la jeune fille s'ennuie ferme et ne rêve que d'aventure. Sa première aventure se présente sous les traits d'un Italien rencontré un soir au bal. Lui promettant l'amour éternel, le bel Antonio lui tourne la tête et l'entraîne à Nancy où il la met sur le trottoir. Marthe, une belle fille de 16 ans, est encore mineure quand elle devient prostituée. À Nancy, ville de garnison, la clientèle ne manque pas. Et Antonio, en bon maquereau, veille au grain.
Le client d'hier soir, ça t'a bien travaillé. Tu vois, quand tu veux t'y mettre, c'est pas si difficile. Ça hier, c'était bien, mais c'est pas assez. Pour moi, tu vas recommencer. T'en prie, tu le feras.
Toute sa vie, Marthe tentera de faire oublier ce passage sinistre de sa jeunesse. Mais les rapports de police sont impitoyables. Dans celui du commissariat de Nancy, en date du 24 août 1905, on peut lire
« La nommée Bettenfeld Marthe, âgée de 16 ans, née à Blamont le 15 avril 1889, a été inscrite sur les contrôles de la prostitution et sera astreinte désormais à l'observation des règlements de la police des mœurs. »
Marthe Richard n'obtiendra jamais la radiation de ce fichage qui la marquera au fer rouge toute sa vie comme une menace. Pour l'heure, Marthe est enfermée dans une prison pour filles de mauvaise vie, tenue par des religieuses. Mais la rebelle s'évade et décide de tenter sa chance à Paris. Nous sommes en 1907.
Achetez, mesdames, messieurs !
Marthe, 18 ans, qui ne veut plus entendre parler du trottoir, se fait embaucher comme blanchisseuse près des Halles. C'est dans ce quartier qu'un jour, la jeune fille rencontre un homme qui va changer sa vie. Henri Richer, de 10 ans de plus qu'elle, courtier en assurance. Vraiment épris de Marthe, il l'emmène dans les bons restaurants, partage avec elle son goût des belles voitures et bientôt des avions.
Voulez-vous m'apprendre à piloter ? Alors ?
Pourquoi pas ? À quand la première leçon ?
Tout de suite.
D'accord.
Aller loin, plus loin.
L'aviation devient pour Marthe une véritable passion. Elle prend des leçons de pilotage et ne quitte plus les aérodromes. En 1913, après un vol à 400 mètres d'altitude, elle obtient son brevet de pilote aviateur. Elles ne sont que 5 femmes cette année-là à l'acquérir. Un jour, lors d'une démonstration aérienne, son biplan s'écrase. Les journaux annoncent la mort de la célèbre aviatrice. Mais, miracle, elle guérit et se remet de plus belle à piloter. Nous sommes en 1914. Tout semble aller bien pour Marthe Richer. Elle est aviatrice et elle vit avec l'homme qu'elle aime. Mais rien ne va se passer comme prévu.
C'est la guerre ! Nous sommes en guerre contre l'Allemagne ! Vous avez entendu ? Ils vont sonner les cloches de l'église à 6 heures ce soir. Et ne les referont plus jamais sonner jusqu'à ce que la guerre soit terminée.
Henri part sur le front. Mais avant, les deux amoureux se marient. Marthe Bettenfeld devient Marthe Richer. Mais pas question pour elle d'attendre au coin du feu le retour du guerrier. Déterminée à se rendre utile, elle propose ses services à l'armée comme aviatrice. À plusieurs reprises, elle réitère sa demande. Entêtée, elle mobilise même la presse à sa cause, mais à chaque fois, l'état-major refuse catégoriquement. La guerre n'est pas une affaire de femmes.
Je suis une femme. Et puis, est-ce que dans toute l'histoire de France, les femmes n'ont pas défendu leur patrie au moment critique à côté des hommes? Alors pourquoi ne veut-on pas de moi? Qu'on me prenne comme estafette. Essayeuse d'avion, mécanicienne, n'importe quoi, mais que je reste dans l'aviation.
Pour les Françaises, en temps de guerre, il n'y a alors que deux options. Infirmière ou ouvrière à fabriquer des obus. À moins, nous allons le voir, qu'il n'y en ait une troisième. Marthe, qui ne peut plus voler et qui ronge son frein, passe son temps sur les aérodromes à reluquer les avions. Un comportement qui, en 1915, intrigue les services de renseignement français. Cette femme n'est-elle pas envoyée par les Allemands pour espionner? Le capitaine Ladoux, qui dirige le deuxième bureau, c'est-à-dire le contre-espionnage de l'armée, demande à un de ses agents d'enquêter sur elle.
La petite nous est signalée comme suspecte. Il faut absolument l'éplucher ou la démasquer. Faites-lui la cour, aimez-la follement, et vous regarderez de près ce qu'elle fait.
L'agent est un aviateur, un collègue de Marthe Richer. Ce géorgien, ancien révolutionnaire anarchiste, qui, enfant, a bien connu le futur Joseph Staline, vit en France depuis 1906. Il s'appelle Joseph Davrichashvili, alias Jean Violent comme écrivain, alias Zozo pour les intimes. Zozo se met donc à serrer de près Marthe Richer, de si près qu'ils deviennent amants. C'est du moins ce qu'il dira par la suite. Elle démentira toujours avoir été sa maîtresse. En tout cas, qu'ils soient amis ou amants, Marthe ne sait pas que Zozo l'espionne. Et lui, qui est vraiment amoureux, se sent terriblement coupable de la surveiller.
J'ai fouillé, honteux et les mains tremblantes, ses affaires et sa correspondance. J'ai fouillé son cœur. Je suis devenu fourbe et méprisable. Cela a duré 2 mois, mais au bout du compte, soulagé, je ne trouvais rien de compromettant sur elle.
Au bout de 2 mois, Zozo rend compte de sa mission à Ladoux. Marthe Richer n'est pas une espionne, seulement une aviatrice qui veut aller au front. Ce qui donne une idée au chef du contre-espionnage. Il dit à Zozo qu'il veut la connaître. Et un jour de mars 1916, Zozo emmène Marthe dans les locaux du deuxième bureau, 282 boulevard Saint-Germain, à Paris.
Il y a un officier qui voudrait vous voir. C'est un officier du service de renseignement. Il attend dans la pièce à côté, je vais lui lire l'enquête. Je vous laisse.
C'est là que Marthe Richer rencontre pour la première fois, mais pas la dernière, le capitaine Ladoux, un homme barbu au regard malin, fumant sans arrêt. De son côté, impressionné par la personnalité de la jeune femme, Ladoux n'y va pas par 4 chemins.
Madame Richer, je vous sais courageuse, sportive, intelligente et patriote. Accepteriez-vous de travailler pour nous en dénonçant des espions? Contre 25 000 francs par agent.
Je vous remercie, mais je dois d'abord en discuter avec mon mari. Et je précise que si j'accepte, ma décision ne serait pas motivée par l'argent.
Incroyable! Le contre-espionnage de l'armée française est donc prêt à recruter des femmes, alors qu'elles sont interdites dans l'armée active et le resteront jusqu'en 1972. Il faut dire qu'avec la guerre, les services secrets français, depuis 1914, ont pris conscience de leur retard en matière de renseignement militaire. Ladoux est chargé de recruter et de diriger des espions, mais aussi des espionnes. C'est lui d'ailleurs qui, en septembre 1916, recrutera la célèbre danseuse exotique Mata Hari. Mais alors que chez l'allié britannique, la présence des femmes dans les services secrets s'est presque banalisée, en France, l'espionne conserve l'image d'une femme de petite vertu, immorale, alternativement sotte ou diabolique, prête à coucher sur commande.
La femme est perfide comme l'onde. J'ai creusé la question. Et pour ce que je leur demande, cette malice a un avantage et puis elle s'adapte mieux. Elle joue la comédie sans se forcer. On reste surpris chaque fois de voir de quelle rouerie fait preuve la plus innocente. Enfin, elles ont certains moyens. Oh, irrésistibles.
Pour le capitaine Ladoux, c'est clair, Marthe Richer, bien que mariée et patriote, n'échappe pas à la règle. C'est son présumé instinct féminin qui la conduira dans le lit des officiers allemands pour leur soutirer des renseignements. Ne comptant donc que sur son instinct, la femme espionne n'a pas besoin de formation spécifique. Le système D suffira bien, D comme débrouillardise.
Le système D, amiral, toujours le système D. Au début de la guerre, rien n'était organisé ici. Quelque temps après, le bureau de renseignement fonctionnait. Alors qu'il me renseigne, le temps presse.
Marthe Richer prend le temps de réfléchir. Elle espère pouvoir discuter de la proposition de Ladoux avec son mari. Mais au printemps, une nouvelle va accélérer les événements. Le 25 mai 1916, le soldat Henri Richer est tué non loin de Verdun.
Ma décision était prise. Je me sentais incapable de vivre désormais à regarder les heures. La guerre continuait. La guerre exigeait. Je retournais au deuxième bureau en créature résignée, prête à supporter injustice et soupçons, pour qu'on offre à mes qualités mésestimées un rôle.
Muée aussi par un désir de vengeance, Marthe accepte la proposition de Ladoux.
Faites de moi ce que vous voulez. J'ai maintenant un but dans la guerre.
Celle qui voulait combattre comme aviatrice et n'en a pas eu le droit devient donc espionne. Pour sa première mission, Ladoux l'envoie en Espagne. Marthe communiquera avec lui par lettre, adressée à un certain monsieur Delorme, rue Jacob, à Paris. Des lettres en apparence banales, dans lesquelles, entre les lignes, un texte invisible a été rajouté, écrit à l'encre sympathique. Ladoux lui fournit la formule qui sert à dissimuler le texte secret.
50 grammes d'antipyrine à dissoudre dans 2 cuillerées à soupe d'eau.
Pourquoi l'Espagne ? Si le pays officiellement est resté neutre dans le conflit, il est néanmoins la plaque tournante de l'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Les Alliés, en particulier, savent que les Allemands utilisent clandestinement les ports espagnols pour le ravitaillement de leurs sous-marins.
Mit der Entwicklung unserer Industrie, unseres Handels und Exports.
C'est l'amiral Tirpitz, le ministre de la marine impériale allemande, qui en février 1915 a déclenché la guerre sous-marine qui depuis fait rage. Avec leur U-boat, l'objectif des Allemands est de couper les alliés franco-britanniques de leurs approvisionnements venant des colonies. Les alliés en particulier savent que les Allemands utilisent clandestinement les ports espagnols pour le ravitaillement de leurs sous-marins.
Dans la seule semaine du 15 au 22 avril, les Allemands ont coulé 88 navires alliés. Où leurs sous-marins se ravitaillent-ils ? En Espagne ! Mais l'emplacement exact de leur base.
Des navires de guerre et de commerce sont coulés. Mais en mai 1915, cette fois c'est un paquebot, le Lusitania, navire civil britannique, qui a été visé. En faisant 1200 morts civils, le torpillage du Lusitania a déclenché une vague mondiale d'indignation et du même coup, une pause dans les attaques sous-marines allemandes. Mais la pause n'a pas duré. Les U-boats ont repris leurs offensives, dramatiques pour les alliés.
Il y a 48 heures, un de leurs sous-marins nous a encore coulé 2 transports.
1 million de tonnes coulées chaque mois.
Le ravitaillement des armées du front est menacé. La vie de la France est sur la mer.
L'Allemagne est en train de gagner la guerre.
Je vous pose de nouveau la question que vous avez laissée sans réponse. Où se trouvent exactement les emplacements de base des sous-marins ennemis en Espagne ? Qui avez-vous là-bas au service de la France ?
Qui ? Oui, qui ?
Une femme.
Une femme ? Vous parlez sérieusement ?
Eh oui, une femme. Marthe Richer est envoyée en Espagne, car c'est là que se trouve le baron Hans von Krohn, le chef à Madrid du renseignement naval allemand. Ce partisan de la guerre à outrance est chargé d'assurer la sécurité des sous-marins allemands qui viennent secrètement se ravitailler dans les ports espagnols. En juillet 1916, Marthe Richer, nom de code Alouette, débarque à Saint-Sébastien, élégante cité balnéaire sur la côte atlantique. Elle descend au Continental Palace, l'hôtel le plus luxueux de la ville, face à la mer.
Comment aborder les gradés allemands, si ce n'est dans les lieux les plus huppés?
Pendant plusieurs semaines, ombrelle à la main, Marthe fréquente les lieux à la mode. Restaurants, hippodromes, billards, casinos. Comme prévu, dans sa tenue de deuil, la jolie veuve intrigue.
Il y avait foule à la roulette. Une foule élégante et cosmopolite. Femmes en robe du soir, hommes en habit. Moi, jeune, brune aux yeux bleus, vêtue de noir, je fis, je l'avoue, une entrée qui me flatta.
Un jour enfin, un individu aborde la jeune femme et de fil en aiguille lui propose à mot couvert de travailler pour le renseignement allemand. Elle accepte. Cet homme, qui est un intermédiaire, organise alors un rendez-vous entre son chef et Marthe. Quelques jours plus tard, une imposante Mercedes s'arrête devant le Continental Hotel et emmène la jeune femme. Bien joué, Marthe. Car l'Allemand qui l'attend sur la banquette arrière, grand, maigre, sévère derrière ses lunettes noires, n'est autre que le baron von Krohn, le chef du renseignement naval. Au maître espion, qui se révèle vite très entreprenant, Marthe joue la veuve éplorée. Elle lui raconte que son mari est mort dans un accident, qu'elle a besoin de beaucoup d'argent et qu'elle est prête à tout pour en gagner.
Chère madame, voici 3000 pesetas. Vous devrez rentrer en France, car nous avons besoin de renseignements sur le moral des civils français, sur les emplacements de la défense antiaérienne en région parisienne et les impacts de nos bombardements.
Marthe accepte. Et alors que la Mercedes continue de rouler dans les rues de Saint-Sébastien, von Krohn fournit à sa nouvelle espionne du matériel pour correspondre secrètement avec lui. De l'encre sympathique toujours, mais cette fois avec du collargolium, un procédé inconnu en France. La Mercedes ramène la jolie veuve à son hôtel. Marthe Richer, qui est désormais agente double, retourne en France comme lui a demandé von Krohn. Mais à peine est-elle arrivée à Paris qu'elle se précipite au bureau du capitaine Ladoux. Aux anges, le chef du contre-espionnage félicite sa nouvelle recrue pour son travail. Bravo, elle a réussi à se faire recruter par von Krohn et en plus, elle rapporte la formule du collargolium. Mais quand Marthe, très émue, annonce qu'elle ne veut pas repartir en Espagne, Ladoux explose de colère.
Votre devoir est de continuer votre mission.
Un jour viendra où je ne pourrai pas éviter le baron. Il est si laid, deux fois plus âgé que moi, un œil de verre et de fausses dents. Et allemand, en plus. Je ne peux y consentir.
Marthe, pensez au sacrifice des poilus dans les tranchées. Vous avez l'inestimable occasion de servir votre pays.
Et Ladoux se fait menaçant.
Si vous n'acceptez pas, je vous fais jeter en prison. Comme espionne pour l'Allemagne.
Marthe Richer comprend qu'elle est piégée. À tout moment, en effet, Ladoux peut, s'il le souhaite, se débarrasser d'elle en la dénonçant comme espionne allemande. Alors, la mort dans l'âme, Marthe Richer retourne en Espagne, munie de faux renseignements à fournir à von Krohn et aussi prête à donner son corps pour la patrie.
Je suis tellement heureux de vous retrouver.
Quand elle retrouve le baron le soir à l'hôtel, elle s'enivre au champagne et au Bordeaux pour surmonter l'épreuve.
Approchez.
Quand von Krohn me prit dans ses bras et commença à me posséder, au fond de moi et de toutes mes forces, je criais alors silencieusement « Vive la France !»
Marthe Richard, dans ses mémoires, donnera plusieurs versions de cette première nuit avec von Krohn. L'une d'entre elles tient davantage du récit d'un viol. En tout cas, la mission patriotique est accomplie. Von Krohn, homme marié, ne peut plus se passer de sa maîtresse qu'il couvre de fleurs et de cadeaux. Et pour conserver sa confiance, Marthe continue de lui apporter des informations sur la France, sur des bombardements à Nancy ou près de Paris, des usines de tanks en construction au Havre, des mouvements de troupes en Lorraine, etc. Des informations, bien sûr, fausses ou périmées, que lui a fournies Ladoux. Inversement, quand von Krohn déchiffre des messages codés ou qu'il reçoit un de ses agents, Marthe, aux aguets, n'en perd pas une miette. Et dès qu'elle peut, à l'encre sympathique, elle communique à Ladoux ce qu'elle vient d'apprendre. Des renseignements souvent précieux. Fin 1916, par exemple, Marthe informe Ladoux que les Allemands préparent une nouvelle offensive avec leur U-boat. L'espionne ne se trompe pas, puisque le 9 janvier 1917, le Kaiser Guillaume II appelle solennellement son armée et sa marine à lancer une nouvelle guerre sous-marine à outrance.
Dans la juste irritation provoquée par l'arrogant outrage de nos ennemis, animés par la volonté de défendre nos biens sacrés et d'assurer l'avenir prospère de la patrie, vous serez inébranlable comme l'acier.
Bravo l'espionne. Mais ce n'est jamais assez. Ladoux veut toujours plus. Il sait que les Allemands empruntent un chemin clandestin pour traverser les Pyrénées et passer en France. Mais quel chemin ? Marthe est chargée de le découvrir. D'un aplomb incroyable, elle a l'idée de faire croire à von Krohn qu'elle est enceinte de ses œuvres et qu'elle doit d'urgence se faire avorter. Pas en Espagne, elle n'a pas confiance, mais en France. Von Krohn, qui n'a aucune envie d'avoir un enfant sur les bras, fait escorter la fausse femme enceinte par le chemin secret des Allemands. Encore un succès pour l'espionne, qui, dès que possible, transmet à Ladoux le trajet clandestin. Mais la traversée des Pyrénées s'est révélée périlleuse, car Marthe, jugée suspecte par la police française, a été arrêtée à Perpignan. Il a fallu l'intervention de Ladoux pour la faire libérer. Après son prétendu avortement, Marthe Richer retourne en Espagne, mais pas pour longtemps. C'est au tour de von Krohn de l'envoyer sur une mission délicate, risquée, mais aussi très surprenante. En mai 1917, Marthe embarque à Cadix sur un cargo en route pour l'Argentine. Dans son sac, l'agente double emporte des lettres destinées à l'attaché naval allemand à Buenos Aires, mais aussi, plus étrange, des boîtes contenant des charançons vivants. Ces insectes, réputés pour se reproduire à grande vitesse et en grande quantité, sont aussi de redoutables dévoreurs de céréales. L'espionne, à son arrivée à Buenos Aires, est chargée de remettre ces boîtes à l'attaché naval qui, discrètement, devra répandre les insectes dans les chargements de céréales argentins exportés vers la France et le Royaume-Uni. Le but, bien sûr, est de ruiner les cargaisons de céréales qui doivent arriver à destination infestées de charançons. Tous les moyens sont bons pour gagner la guerre, même l'emploi d'une arme biologique. Mais encore une fois, on peut saluer le courage de l'espionne. Elle réussit à faire capoter le plan de von Krohn en laissant les charançons mourir dans leur boîte avant l'arrivée à Buenos Aires. Et le courage, surtout, à son retour en Espagne, d'affronter von Krohn. Par chance, l'Allemand, visiblement aveuglé par l'amour, ne lui tient pas grief de cet échec, et surtout, il ne se méfie pas d'elle. Von Krohn a tellement confiance en sa maîtresse qu'en juin 1917, il n'hésite pas à l'emmener à Cadix visiter un U-boat qui mouille clandestinement dans la rade. L'image est stupéfiante.
Ah, ma chère Marthe.
L'espionne française, trinquant au champagne avec le commandant d'un sous-marin ennemi, mais qui, sous l'apparence frivole d'une courtisane, tâche de mémoriser tout ce qu'elle voit autour d'elle. Rentrée à l'hôtel, elle s'empresse dans un message à l'encre sympathique d'envoyer à Ladoux des renseignements techniques précis sur ce sous-marin ennemi, dernier modèle. Décidément courageuse et efficace, Marthe Richer compte bien poursuivre son espionnage. Mais un événement va en décider autrement. Le 7 juillet 1917, sur une route espagnole, elle est victime avec von Krohn d'un accident de voiture dont elle sortira sauve. Mais le fait divers, rapporté par la presse espagnole, est repris en France à la une du journal L'Action française, où le très nationaliste Léon Daudet, criant au scandale, se demande ce que cette Française fabriquait en Espagne avec cet attaché naval allemand. À l'été 1917, il faut le dire, le contexte en France est électrique. Sur le front, l'armée vient de connaître d'importantes mutineries après l'échec de la bataille du chemin des Dames. Et à Paris, se tient le procès de Matahari, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne, qui sera condamné à mort et fusillé en octobre.
Révélation sensationnelle sur le réseau d'espionnage allemand ! Le Bosch est partout !
En pleine chasse aux traîtres, cette Marthe Richer, qui fricote avec un Allemand, aura vite fait de passer pour une nouvelle Matahari. Ladoux réussit tant bien que mal à étouffer l'affaire et à sauver l'honneur de Marthe. Mais à ses yeux, l'espionne est grillée, pas assez discrète. Marthe, pourtant, toujours intrépide, trop sans doute, conçoit le plan de voler les papiers contenus dans le coffre-fort de von Krohn. Mais Ladoux refuse, trop risqué. Marthe, qui n'en peut plus de sa liaison forcée avec l'officier allemand, décide de mettre fin à sa mission et de rentrer en France. Mais avant, souhaitant se venger, elle prend le temps d'informer les supérieurs allemands de von Krohn qu'il a eu une liaison pendant un an et demi avec une espionne française. Une révélation qui conduira à la disgrâce de von Krohn. Marthe Richer, future Marthe Richard, rentre en France. Le 11 novembre 1918, le tocsin annonce l'armistice après 4 ans de guerre.
À la victoire ! À la victoire !
L'ex-espionne éprouve fierté et soulagement.
À la tristesse d'avoir perdu mon mari, se mélangeait le soulagement d'en avoir terminé avec un jeu dangereux et la fierté d'avoir peut-être contribué à la victoire.
Mais la jeune veuve, qui en mai 1916, pleine d'ardeur patriotique, s'était engagée dans l'espionnage à défaut de l'aviation, qui avait accepté de coucher avec l'ennemi, se retrouve à la fin de la guerre, seule et sans emploi, ne bénéficiant d'aucune reconnaissance du contre-espionnage français, qu'il a ni plus ni moins abandonné. Le retour à la vie civile, à la vie dite « normale » est difficile, comme c'est souvent le cas pour les espions. Mais dotée d'une étonnante capacité de rebondir, Marthe Richer va connaître plusieurs autres vies. Par son mariage d'abord avec un Anglais, elle devient la respectable Madame Crompton. Et lorsque son deuxième mari meurt, Marthe, à nouveau veuve, renoue avec la célébrité quand le capitaine Ladoux, désormais à la retraite, publie son livre et qu'elle-même écrit ses mémoires. Un best-seller transposé au cinéma en 1937 avec Edwige Feuillère dans son rôle d'espionne. On l'a vu, un récit très édulcoré par rapport à la réalité. Peu importe, Marthe Richer, désormais Marthe Richard pour toujours, profite de sa célébrité. En 1933, consécration, elle est décorée de la Légion d'honneur. Il a fallu 2 livres et 1 film pour qu'enfin ses services rendus à la France soient reconnus. En 1934, la célèbre Marthe Richard apparaît dans un film d'actualité. À bord de son avion, accompagnée d'un petit chien, l'aviatrice atterrit dans un champ lorsqu'un paysan, qui croit avoir affaire à un homme, lui propose son aide.
Vous n'avez besoin de rien, monsieur ? Vous n'êtes pas blessé ?
Non, merci, rien de grave. J'en ai vu d'autres pendant la guerre.
Oh, pardon, madame. Mais je vous reconnais. Vous êtes la vieille tige Marthe Richer, chevalier de la Légion d'honneur. Madame est la fameuse espionne Marthe Richard. Madame Marthe Richard ? Mais alors, c'est vous, madame, qui publiez en ce moment vos mémoires d'espionne dans un grand journal de Paris ?
Oui, c'est moi. Et voici le petit-fils du fidèle compagnon qui m'a suivi pendant la guerre.
En 1939, quand débute la Seconde Guerre mondiale, Marthe propose à nouveau ses services au deuxième bureau, qui refuse. La dame est trop connue. Marthe Richard va traverser tant bien que mal les années d'occupation. Des années après la guerre, elle sera accusée par ses détracteurs d'avoir collaboré avec l'occupant. Mais aucune preuve ne viendra corroborer ces accusations. Au printemps 1944, Marthe, âgée maintenant de 55 ans, s'engage dans un mouvement de résistance et participe avec enthousiasme à la libération de Paris. Et c'est portée par cette vague qu'elle s'engage en politique, alors qu'enfin les Françaises peuvent voter et se faire élire.
La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices.
Au printemps 1945, Marthe Richard est élue au Conseil de Paris. Et c'est en tant que conseillère de Paris que l'ex-prostituée et ex-espionne va mener son nouveau combat. Celui qui lui donnera sa deuxième célébrité, la fermeture des maisons closes qui est votée en 1946. Marthe Richard, devenue la veuve qui clôt, sera régulièrement invitée à la télévision dans les années 1960-1970 pour parler de la prostitution, mais aussi de son passé d'espionne pendant la Première Guerre mondiale. Parfois devant un parterre de messieurs incrédules, voire goguenards à son égard. L'image de l'espionne aux mœurs légères a décidément la vie dure. Marthe Richard contestera toujours cette image avec virulence.
Être espionne pendant la guerre, ce n'est pas comme on l'imagine parfois se lancer dans une aventure romanesque. Jouer à la femme fatale, tourner les têtes. Être espionne, c'est d'abord servir. Terrible métier.
Et en 1970, dans l'émission de télé Les Dossiers de l'écran, quand on l'interroge sur Mata Hari, celle qui en 1917 a été reconnue coupable d'espionnage pour l'Allemagne et fusillée, Marthe Richard a bien conscience qu'il s'en est fallu de peu qu'elle connaisse le même sort.
Mata Hari était comme moi. J'ai eu la Légion d'honneur, moi. Elle a eu une croix de bois. Ça aurait pu être la même chose autrement. J'aurais pu avoir la croix de bois et la Légion d'honneur.
L'ex-espionne Marthe Richard, qui à l'origine voulait se battre en aviatrice, meurt en 1982 à Paris, à l'âge de 92 ans. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Réalisation Audrey Ripouille, documentation Frédéric Martin, mixage Cédric Diallo et Basile Bocquer, avec les comédiens Caroline Mounier, Grégoire Roqueplot, Benoît Marchand et Philippe Weissert.